Les rendez-vous santé d'Africa Radio, la prévention, en partenariat avec Santé Publique France.
La consommation d'alcool reste une source importante de mortalité et de morbidité en France et dans le monde. Bien que le volume global d'alcool pur consommé en France soit en diminution depuis les années 60, essentiellement en raison de la baisse de la consommation quotidienne de vin, la France reste parmi les pays les plus consommateurs d'alcool au monde, se situant en troisième rang parmi les 34 pays de l'OCDE. Pour informer le public, Santé Publique France et le ministère des Solidarités et de la Santé ont lancé une campagne pour rappeler les repères de consommation qui permettent de limiter les risques pour la santé. Alors, quels sont ces repères? Nous en parlons ce matin avec nos invités. Nous rejoignons sur le plateau d'Africa Radio Virginie Bresson, elle est chargée de communication à prévention des addictions à Santé Publique France. Merci de nous rejoindre au téléphone d'Africa Radio, le docteur Marc Valeur. Il est psychiatre et ancien médecin-chef de l'hôpital à Marmottan. Devait nous rejoindre le docteur Anno Marin, qui est souffrant ce matin et à qui nous pensons. Bonjour Virginie Bresson. Alors, est-ce que l'épidémie de Covid-19 a vu l'augmentation de la consommation d'alcool en France ?
Alors, c'est difficile de répondre par l'affirmative parce qu'il y a à la fois des résultats qui prouvent que la consommation a en effet augmenté et d'autres, à l'inverse, qui prouvent que des personnes ont profité de ce contexte sanitaire pour justement diminuer leur consommation d'alcool. Alors, Santé Publique France a lancé une enquête, Coviprév, afin de suivre l'évolution de ces comportements et notamment de la consommation d'alcool pendant l'épidémie. Et des premiers résultats, donc, durant le premier confinement datant d'avril 2020, prouvent que 11% des Français auraient augmenté leur consommation d'alcool. Donc, ça reste une minorité, mais un résultat quand même assez significatif. Et parmi ces répondants, une grande majorité justifie justement ce comportement pour le plaisir, mais aussi face à l'ennui, le manque d'activité ou aussi pour gérer le stress. Donc on se rend compte que tout le contexte actuel, la morosité ambiante, la lassitude de la situation fait que certaines personnes ont pu se replier sur la consommation d'alcool. Et cela a d'autant été plus difficile en fait, pour les personnes avec déjà des difficultés d'alcool. Donc ça, c'est pas forcément ce qui ressort de cette enquête, mais ce qui ressort des forums donc sur Alcool Info Service, sur lequel en fait, de nombreuses personnes ont fait part de leurs difficultés et qui se sont du coup repliées sur l'alcool face à des difficultés financières, face aussi des personnes pouvaient être plutôt à l'abri de leurs collègues.
La solitude.
La solitude, bien sûr, oui. Mmh. Donc tout ça fait que des personnes ont pu augmenter leur consommation d'alcool, mais ça, c'est une partie. Oui. Et d'autres ont pu, à l'inverse, aussi diminuer.
Mmh. Marc Valeur, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que la fermeture des bars et restaurants, réunions amicales et familiales limitées, discothèques fermées, concerts et festivals interdits, tout cela a fait diminuer de manière significative la consommation d'alcool, selon vous ?
Oui, alors probablement en partie, et les chiffres de Santé Publique France le confirment, il y aurait 25% de personnes qui auraient diminué leur consommation, et probablement parce que les boîtes de nuit, les bars, les restaurants étaient fermés, aussi les occasions festives familiales ou amicales ont bien sûr diminué pendant le confinement. Mais les soignants confirme le fait que les personnes qui sont suivies pour des problèmes d'addiction ont traversé des périodes extrêmement difficiles pendant ce temps, et ça explique ces 11% de personnes qui ont augmenté au contraire leur consommation, et on comprend bien pourquoi, hein. L'alcoolisme, ça va de pair avec l'anxiété, la dépression, ça va de pair aussi dans certains cas avec l'impulsivité, la marginalité, les tendances antisociales, et on voit bien qu'il s'agit de personnes dont toutes ces conditions ont été aggravées. Le confinement, ça a aggravé les dépressions, ça a aggravé l'angoisse, et les personnes qui sont impulsives sont celles qui ont eu le plus de mal à supporter le confinement. Donc on peut dire que globalement, il y a eu plutôt une diminution, mais pour les personnes qui allaient déjà mal, ça a été aggravant.
Mmh. Ce que vous dites, Marc Valeur, c'est que ceux qui ont une addiction à l'alcool n'ont pas pu diminuer leur consommation durant cette crise sanitaire.
Non, ça a même aggravé les choses, d'autant que les réponses soignantes ont été handicapées. Il a fallu développer des téléconsultations, des prescriptions à distance. Beaucoup de services hospitaliers ont été obligés de se redéployer pour s'occuper des problèmes de Covid. Donc les réponses n'ont pas été absolument aussi performantes que d'habitude. Donc oui, ça a été une période difficile.
Alors Marc Valeur, est-ce que justement l'augmentation de cette consommation est corrélée, vous le disiez tout à l'heure, au risque d'anxiété et de dépression, mais comment l'expliquer ?
On sait bien que quelle que soit l'addiction, l'alcool comme les autres, il y a plusieurs manières d'y entrer. Alors en France, on est très habitué à l'alcoolisme d'habitude, au fait que les gens boivent du vin au repas, etc. Heureusement, ça diminue très progressivement depuis une cinquantaine d'années. Mais il y a d'autres manières d'entrer dans l'addiction. Et c'est souvent des gens qui ont commencé à utiliser l'alcool de manière excessive par automédication, parce qu'ils vont mal, parce qu'ils traversent des périodes de chômage, de dépression, qu'ils sont très anxieux, etc. Ou alors, il s'agit de jeunes qui sont impulsifs, qui aiment bien faire la fête, qui aiment bien transgresser les lois, qui ressemblent un peu à des toxicomanes. Et qui consomment d'une manière impulsive. Et on voit bien que ces deux grands chemins vers l'addiction sont aggravés par la crise de la pandémie, parce que c'est très difficile pour les personnes impulsives de se conformer aux règles, de rester enfermées chez soi, de ne pas bouger. Et pour les personnes qui sont anxieuses et déprimées, c'est une source d'anxiété et de dépression supplémentaire, hein, de vivre cette période où tout le monde est un peu anxieux et un peu déprimé. Mmh.
Alors Virginie Bresson, dans les chiffres de Santé publique France que vous avez cités, il y a 24% des personnes qui ont diminué leur consommation d'alcool durant cette crise sanitaire. Quel est le profil des personnes qui ont diminué leur consommation ? Est-ce que ce sont des personnes qui ont justement profité de la fermeture des bars, des restaurants pour diminuer leur consommation, ou ceux qui avaient déjà l'idée d'arrêter l'alcool ? Depuis longtemps.
Je pense qu'effectivement, c'est directement lié au contexte, à l'isolement partiel, le fait que la plupart des lieux de consommation ont été fermés et en l'absence d'occasion, donc l'absence peut-être d'apéritif, l'absence de soirée, ce genre de choses qui font que les personnes ont diminué par manque de contexte, par manque d'occasion, parce que c'est souvent comme ça en fait qu'on consomme sans forcément se rendre compte au compte-gouttes, on va dire, au fil des occasions de la semaine. Après, effectivement, il y a d'autres personnes qui ont pu aussi, et ça c'est quelque chose qui a été observé sur les forums d'alcool info service, mais d'autres personnes qui ont pu prendre conscience aussi dans ce contexte de l'importance de leur consommation, voire de leur dépendance à l'alcool. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il est assez difficile de se rendre compte dans un contexte normal, parce que la consommation elle est diluée, on mesure pas forcément ses verres, on ne se rend pas compte, on va dire, de tout ce que ça peut représenter entre un verre à table, un verre un événement festif ou dans le contexte d'un bar. Et ainsi, le Covid, il a pu vraiment agir comme un déclic, comme un révélateur. Et ça, c'est assez important, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas l'habitude, et cette prise de conscience, elle est assez essentielle. Prendre un peu de recul, essayer de réfléchir, d'évaluer sa consommation d'alcool. Et ça, c'est un nouveau type de consommateurs qui ont développé du coup cette envie de réduire, de diminuer leur consommation durant le contexte sanitaire, et c'est, on va dire, plutôt positif.
Marc Valeur, est-ce que l'on sait parmi les chiffres, dans les chiffres cités par Santé publique France, s'il y a plus d'hommes ou de femmes qui ont arrêté, voire augmenté leur consommation d'alcool durant cette crise sanitaire ?
Alors moi, j'ai pas la notion qu'on ait ces chiffres-là. Il faut demander. Non, là je ne sais pas. Évidemment, dans les patients qui sont suivis dans les centres d'addictologie, comme toujours, les hommes sont surreprésentés. Et parmi les personnes qui ont été le plus mal pendant la crise, il est évident que les hommes vont être surreprésentés. Il y aura, comme toujours, quelque chose comme 3 fois plus d'hommes que de femmes. C'est probablement, malheureusement, une des raisons pour lesquelles, pendant le confinement, les violences conjugales et les violences intrafamiliales ont augmenté. Et on sait que dans ces violences, la corrélation avec l'usage d'alcool est extrêmement forte.
Alors justement, docteur Marc Valeur, quel a été l'impact de ces confinements, de ces mesures, de ces restrictions également sur les personnes déjà suivies pour des addictions à l'alcool ?
Beaucoup de d'entre eux ont traversé des périodes difficiles. Ceux qui étaient déprimés ont traversé des phases de dépression, et les réponses ont été difficile, parce que c'est souvent des moments où on a recours à des hospitalisations, à des moments de mise à l'abri pour traverser les périodes difficiles, et que dans certains centres, quand il s'agissait d'hôpitaux généraux, de choses comme ça, beaucoup de services ont été handicapés avec des fermetures de lits parce qu'il y a eu un redéploiement pour hospitaliers, pour pouvoir s'occuper des patients Covid. Alors ça n'a pas touché Marmottan, ça n'a pas touché les centres spécialisés qui ne sont là que pour ça, mais au niveau national, il y a quand même eu des difficultés de réponse dans pas mal d'endroits. En même temps, il y a eu, juste une remarque, il y a eu des choses intéressantes parce que ça a permis de développer des nouveaux types de réponses comme les téléconsultations, des prescriptions à distance dans certains cas, des choses comme ça. Et là, il y a des choses qu'on pourra garder dans l'avenir comme dans un assouplissement des pratiques.
Alors Marc Valeur, comment soigne-t-on une addiction à l'alcool? Comment vous, en tant qu'addictologue, vous travaillez?
Je pense que comme pour toutes les addictions, il y a un certain nombre de grands principes. D'abord, le grand cadre dans lequel il faut placer le soin, c'est le grand cadre de la réduction des risques. Il faut d'abord essayer que les gens prennent le moins de risques possible, ne se mettent pas en danger, etc., même s'ils continuent à consommer. Ensuite, il faut toujours tenir compte du fait qu'on va être devant un accompagnement au très long cours. Le plus important dans la prise en charge, c'est l'alliance thérapeutique, la qualité de relation, la manière dont les personnes peuvent être accueillies dans des lieux sans être jugées, et que ces lieux puissent devenir pour eux des lieux de référence auxquels ils peuvent s'adresser en cas de difficulté avec confiance. C'est ça l'essentiel. Après, on va mettre en place des outils, mais toujours dans l'idée qu'il s'agit d'un accompagnement au long cours, et dans cet accompagnement au long cours, on pratiquera ce qu'on appelle la prévention des rechutes, c'est-à-dire plutôt un accompagnement des rechutes. On sait qu'on est devant une problématique variable. Il y a des moments où les gens vont aller très mal, consommer énormément, d'autres moments où ça va aller mieux, ils vont réduire leur consommation, et il faut utiliser les moments de rechute comme des moments riches de sens où les gens vont pouvoir réfléchir à ce qui les pousse à consommer, aux stratégies qu'ils peuvent mettre en œuvre pour limiter. Et dans ces moments difficiles, on recourt à des outils comme les hospitalisations, les centres de post-cure, etc. En parallèle, on peut toujours recourir aux groupes d'entraide, hein, aux traitements comme les alcooliques anonymes ou autres, qui sont des choses tout à fait utiles.
Est-ce que pour vous, dans le traitement, dans la prise en charge des patients, vous faites un énorme travail concernant la psychologie, parce qu'on sait que l'inquiétude, le stress, l'inactivité fait augmenter la consommation d'alcool et d'après les chiffres de Santé publique France, a fait augmenter la consommation durant cette crise sanitaire?
Oui, bien sûr. Il faut traiter en même temps et au long cours, à la fois les conséquences de l'alcool, et parfois avec des hospitalisations pour sevrage, des hospitalisations pour accidents, etc., et les causes. Et on ne peut pas séparer les deux. Hein. Il ne faut pas imaginer qu'on va d'abord arrêter l'alcool, après soigner la dépression, ou d'abord soigner la dépression, et que ces gens restent après. Il faut soigner tout ça au long cours et en même temps. Il faut soigner en même temps les problèmes de dépendance, les problèmes d'abus et les problèmes de dépression, d'anxiété, d'impulsivité, etc. C'est ce qui justifie l'existence de lieux spécialisés, hein, parce que il faut pouvoir faire tout ça dans le même lieu, avec les mêmes équipes, et c'est bien sûr compliqué à mettre en œuvre, hein, en sachant que c'est un travail au long cours et qu'il y a des périodes difficiles de rechute où les gens à nouveau vont mal, etc. Et il faut être prêt à accompagner les personnes dans ce contexte.
Virginie Bresson, alors pour votre santé, l'alcool c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Cette formule résume les nouveaux repères de consommation d'alcool élaborés notamment par Santé publique France. Alors aujourd'hui, quel est le bilan que vous dressez de cette campagne?
Alors on a différents résultats, et les premiers résultats de cette campagne, ils sont plutôt positifs, dans le sens où cette campagne est perçue comme claire, comme utile. Les gens se reconnaissent à travers les différents éléments créatifs qui ont été développés et ils sont surtout incités à réfléchir à leur propre consommation d'alcool. On perçoit aussi des améliorations en termes de connaissance des repères et des risques, qui était quand même l'objectif visé par cette campagne, ce qui plaide vraiment pour de nouvelles répétitions et de nouvelles évolutions de cette campagne d'information, parce qu'on sait que c'est un travail au long cours, un travail de fond, et que les Français entretiennent vraiment une relation particulière avec l'alcool, et que c'est pas forcément en un temps qu'on réussira, on va dire, à changer les choses. Donc ce travail d'information sur les risques et les repères, il est essentiel, mais il faut aussi continuer ce travail pour que chacun puisse se réapproprier les risques et éviter la mise à distance, surtout des risques liés à l'alcool, parce qu'il est facile de les comprendre, mais on ne se sent pas forcément touché, concerné une fois ce premier travail réalisé.
Alors comment justement déconstruire, comme vous le disiez, cette relation dans la France avec l'alcool? Est-ce que cela marche à travers des campagnes de sensibilisation? Ou c'est là justement les enjeux, hein, en tant que chargé de communication, hein, par exemple, pour vous, d'essayer de déconstruire à travers des campagnes de sensibilisation cette relation particulière?
La première étape, c'est vraiment l'information. L'information sur les risques. Les risques liés à l'alcool sont encore très largement méconnus. Donc on connaît certains risques, que ce soit pour le foie, mais on s'arrête généralement aux plus connus, alors qu'en réalité, il y a une diversité de risques qui sont associés à la consommation d'alcool. On sait notamment que l'alcool cause est lié directement au risque de cancer. Donc il y a 7 cancers qui sont liés à la consommation d'alcool, mais aussi il est lié aux hémorragies cérébrales, donc aux hémorragies dans le cerveau, à l'hypertension. Donc c'est tout ce travail de pédagogie qui permettra déjà de changer, on va dire, l'image très positive et les associations très positives liées à la consommation d'alcool. Les repères aussi sont un travail important, parce qu'en fait aujourd'hui on ne sait pas exactement justement comment se préserver, comment se protéger face à ces différents risques. Donc il y a les 2 verres par jour et pas tous les jours, qui correspondent en fait 2 verres par jour maximum et 10 verres par semaine maximum, avec des jours sans consommation dans la semaine. C'est des repères qui restent assez méconnus et qui sont assez essentiels de continuer à partager pour que chacun puisse s'y retrouver, savoir où est-ce qu'il en est et se fixer aussi des limites dans son quotidien, changer ses habitudes. Donc c'est vraiment un travail de fond, d'information, pour permettre à chacun de faire des choix et de limiter sa consommation au quotidien.
Marc Valeur, selon vous, est-ce que les campagnes de sensibilisation sont efficaces auprès de personnes ayant une addiction très forte à l'alcool? Est-ce que cela les touche?
Ces grandes campagnes, évidemment, ça ne s'adresse pas à eux, ils le savent déjà que c'est dangereux. Je pense qu'elles sont très utiles en matière d'alcool parce que il faut absolument casser ces représentations banalisantes et essayer de mettre à mal les traditions françaises qui poussent à la consommation. On peut dire que malheureusement, en parallèle de ces campagnes, il y a aussi des campagnes de publicité où même si en dessous on met à consommer avec modération, etc., on sait bien que s'il y a de la publicité, c'est pour inciter à consommer. Et ça, c'est extrêmement dommage. On voit bien que la diminution de l'usage d'alcool est bien moindre que la diminution de l'usage de tabac. Et une des raisons, c'est que la loi Evin de 91, qui limitait la publicité, a été beaucoup plus tendre pour l'alcool que pour le tabac, et qu'elle a été déconstruite à chaque fois, et que même les autorités les plus hautes, souvent, entretiennent l'ambiguïté en laissant croire que le vin, c'est pas de l'alcool, que la bière, c'est rien du tout, etc. Et donc, c'est ces représentations qu'il s'agit de mettre à mal en continuant à expliquer que l'alcool, c'est aussi le vin, c'est aussi la bière, etc. C'est là que le travail de prévention est utile. Au niveau de l'information de la population générale, il faut des actions beaucoup plus ciblées en parallèle. Une chose importante, par exemple, ça a été le zéro alcool pendant la grossesse pour lutter contre le syndrome alcoolique fœtal. Ça, c'est extrêmement important. Il faut aussi des actions dans les lieux festifs, dans les quartiers chauds pour diminuer les risques liés à la consommation d'alcool. Il faut aussi des actions de prévention dans les écoles, comme un programme qui s'appelle Unplugged et où, qui s'adresse aux collégiens, etc. Donc, les grandes campagnes, ça peut être utile pour l'alcool, c'est complètement inutile pour les drogues illicites, à mon avis. Mmh. C'est utile pour essayer de changer les représentations sociales sur l'alcool, mais ça ne doit pas empêcher d'autres actions de prévention beaucoup plus ciblées. Mmh.
Ce que vous dites, c'est que le message est brouillé, le message de sensibilisation est brouillé, notamment à cause de l'intense lobbying de l'industrie des alcooliers.
Non, mais évidemment, on le sait bien, le contexte de la lutte contre l'alcool en France est très très particulier parce que la production de vin notamment est très très indispensable à l'économie française et le poids des lobbies est extrêmement important et on continue à voir régulièrement des publications sur les bienfaits du vin, les bienfaits de l'alcool, etc. Mmh. Et on sait bien que ça, c'est une manière, enfin c'est un effet du lobbying de ces industriels. Mmh. Et on le sait depuis très très longtemps, il suffit de relire Zola, etc. Mais un siècle ou deux, c'est nécessaire pour que les choses commencent à évoluer vraiment.
Alors Marc Valeur, vous avez évoqué le cas des femmes qui ont une grossesse et qui ont une addiction à l'alcool. Quelle est l'ampleur du phénomène ? Est-ce que le phénomène est important et comment vous, en tant qu'addictologue, vous arrivez à soigner ces femmes ?
Alors, je pense que maintenant, le problème est vraiment bien connu, que l'information est passée et que le zéro alcool pendant la grossesse, quand une femme est enceinte, elle le réalise. Le syndrome alcoolique fœtal grave, c'est quelque chose de relativement rare, mais ça arrive quand même à quelque chose comme 1% des grossesses. Et c'est vrai que quand on a affaire à des jeunes femmes qui sont dans la surconsommation, qui sont déjà dans des problèmes d'alcoolisme, là, il faut vraiment des suivis très serrés pour pouvoir les accompagner pendant cette grossesse, parce qu'on sait que le syndrome alcoolique fœtal, ça entraîne vraiment des gros problèmes chez les enfants.
Virginie Bresson nous a parlé des risques pour notre santé. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres, docteur, et quels sont les autres risques principaux ?
Les risques sont... l'alcool est la pierre des drogues, de certaine manière. Quand on avait fait, avec le professeur Rock, un classement de la dangerosité des drogues, l'alcool venait en premier, au même titre que l'héroïne, et avant même des produits comme la cocaïne. Parce que c'est dangereux pour le corps, pour le système digestif, pour le système cardiovasculaire, tout ce qui a été rappelé. C'est dangereux aussi pour le cerveau et pour la psychologie. Vivre des expériences extrêmes dont on ne se souvient pas le lendemain, etc. C'est quelque chose qui met la psychologie à mal, et ça déprime, ça aggrave les choses. C'est un espèce de faux médicament qui ne fait qu'aggraver les problèmes de dépression, d'anxiété, etc. Donc c'est un cercle vicieux qui s'aggrave lui-même, qui fabrique des problèmes tout en faisant semblant, en quelque sorte, de les anesthésier dans un premier temps. Et donc, en gros, il y a deux grands types de conséquences. Il y a des conséquences physiques sur le foie qui sont bien connues avec la cirrhose, etc. Mais ça, c'est lié à l'alcoolisation très fréquente au long cours, ce qui était la pratique en France de boire du vin au repas, etc. Et il y a des conséquences neurologiques et psychologiques qui sont très liées aux alcoolisations aiguës, aux ivresses répétées, etc., qui sont assez fréquentes, malheureusement, chez les jeunes, avec les phénomènes de binge drinking, de défis à boire, qui existent depuis toujours. Et on sait bien que ces moments-là sont très corrélés aux accidents, aux moments de violence, aux bagarres, etc.
Virginie Bresson, d'ailleurs, les jeunes, vous les ciblez, dans vos campagnes. Pour vous, c'est un groupe prioritaire.
C'est complètement un groupe prioritaire et effectivement, ce n'est pas exactement les mêmes manières de consommer que le reste de la population adulte. Donc, c'est souvent des consommations excessives en un temps court, donc que ce soit le week-end ou sur certaines soirées, et qui fait effectivement prendre des risques bien plus élevés. Donc, il y a un enjeu de prévention majeur. Après, c'est une cible qui est assez difficile à toucher parce que c'est vrai que le simple rappel des risques ne suffit pas. Donc, il faut effectivement aller sur le terrain, donner des conseils de prévention prévention, on est plutôt dans une approche de réduction des risques, où on va essayer de les inciter à prendre soin de leurs proches, de leurs amis, à adopter des comportements protecteurs sans forcément tenter une diminution drastique de leur consommation d'alcool, parce que c'est vraiment une période dans laquelle les jeunes vont être dans une phase un peu de recherche identitaire, vont essayer de chercher à tester leurs limites. Donc l'enjeu pour nous est plutôt de les accompagner et de réduire les risques dans ces moments-là.
Mais le souci aussi, c'est que en raison de la crise sanitaire, maintenant beaucoup de ces jeunes consomment à domicile. Est-ce que là aussi c'est inquiétant pour vous, parce que il y avait les bars, les restaurants, les discothèques, mais aujourd'hui comme elles sont fermées, la consommation se déroule maintenant à domicile.
Et les apéros virtuels aussi.
Ouais. Alors c'est vrai que les apéros virtuels, on en a beaucoup parlé. Alors après, c'est pas forcément, enfin ça signifie pas forcément une augmentation des usages. C'est que les apéros virtuels ont pris la place d'autres coutumes d'apéros en vrai, en fait. Donc ça signifie pas forcément une augmentation. Alors c'est vrai qu'on n'a pas de données spécifiques, en tout cas par tranche d'âge, mais sur ces jeunes, je sais pas si ça a considérablement augmenté leur consommation à domicile. C'est vrai que c'est quand même des consommations qui restent dans un cadre festif, entouré de proches. On n'est pas forcément dans une consommation isolée ou régulière. On n'est pas encore dans une consommation qui accompagne des repas, mais plutôt des moments festifs.
Marc Valeur, 41 000 décès sont attribuables à l'alcool par an, dont 30 000 chez les hommes et 11 000 chez les femmes. Est-ce que ces chiffres restent pour vous très élevés, ou avez-vous constaté une baisse du nombre de décès liés à l'alcool ?
Oui, alors moi personnellement, je n'ai pas constaté de baisse à la clientèle. À Marmoutan, on s'occupe beaucoup de toxicomanes, d'héroïnomanes, de cocaïnomanes, et le constat au long cours depuis une vingtaine d'années, c'est qu'une fois qu'on a réussi à accompagner les gens vers une sortie de ces usages très problématiques de drogue dure, beaucoup finissent par mourir de cancer, de cirrhose, de cancer du foie, de cancer du poumon, et c'est le tabac et l'alcool qui sont en cause, et pas l'héroïne et la cocaïne qu'ils avaient pris pendant des années. Alors sur l'ensemble des chiffres, on voit une diminution progressive qui est liée à la diminution très progressive de l'usage d'alcool dans la population. C'est évidemment encore insuffisant. Et là, je pense que quand on parlait des jeunes, par exemple, et du confinement, le fait qu'il y ait de la publicité pour l'alcool sur Internet, je pense que c'est une catastrophe. Tout le monde est sur Internet, on est confiné, on passe notre temps là-dessus, et on a le droit de faire de la publicité pour l'alcool. Je trouve que ça, c'est très, très dommage.
Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Plus d'infos sur Internet, sur le site de Santé publique France, notamment donc améliorer les connaissances et réduire les risques sur la santé. Merci beaucoup Virginie Bresson. Je rappelle que vous êtes chargée de communication prévention des addictions à Santé publique France. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci à vous, docteur Valeur, psychiatre et ancien médecin chef à l'hôpital Marmottan à Paris. Merci beaucoup à tous les deux. C'est la pause, on se retrouve dans un instant.